Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel gay. Ce soir, nous allons entendre Antoine Hidier au sujet donc de son dernier livre, Les vies de Guy Hockenghem, paru aux éditions Fayard au début de cette année 2017. Guy Hockenghem, grand militant homosexuel des années 70. Alors nous allons entendre la version courte de l'entretien que j'ai réalisé avec lui à Paris cet été. Une version longue, la version longue sera mise en ligne sur le site de l'émission pluriel.fr. Je vous retrouve en fin d'émission et je vous souhaite donc une bonne écoute. Je suis très heureux de me retrouver une nouvelle fois avec Antoine Hidier. Antoine Hidier, sociologue, écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc bonjour Antoine.
Bonjour.
Nos auditeurs se rendront compte par rapport à l'environnement sonore. Nous sommes rejoints dans un café face à la gare du Nord à Paris, Paris où tu résides désormais. Mais à l'époque, lorsque je t'ai reçu à la radio, tu étais encore lyonnais. Voilà. Et maintenant donc tu es parisien depuis 6 ans, je crois. À l'époque, tu étais venu à la radio parler d'un ouvrage que tu avais écrit.
Ah oui, c'était en 2012, je crois, en 2013. Enfin, oui, il y a quelques années en tout cas.
C'était il y a quelques années et c'était un sujet qui nous intéressait directement puisqu'il s'agissait de tranches de vie homosexuelles à Lyon dans les années 70.
C'est ça, ça s'appelait Dissidence Rose, fragment de vie homosexuelle à Lyon dans les années 70, publié par un éditeur lyonnais d'ailleurs, les éditions Michel Chomara.
Tu as aussi écrit un autre livre concernant donc la dépénalisation entre guillemets de l'homosexualité, Les alinéas du placard.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Donc nous sommes ici à Paris pour parler de ton dernier livre, qui est un livre qui a été remarqué par la presse. Bien que ce soit quand même un livre peut-être... Dans quelle catégorie on pourrait le classer? Une biographie?
Les vies de Guy Hockenghem, donc c'est avant tout une biographie de Guy Hockenghem, donc on va pouvoir décrire un peu plus précisément sa vie ensuite, mais militant gay, journaliste, intellectuel, écrivain de la seconde moitié du XXe siècle. C'est évidemment une biographie dans le sens où ça retrace sa vie, son existence, sa trajectoire, et en même temps le livre ambitionne d'être une biographie sous une certaine forme, une certaine biographie. J'aime pas beaucoup l'expression biographie intellectuelle, mais disons qu'à travers le parcours de Guy Hockenghem, il s'est agi pour moi de retracer un ensemble de moments de l'histoire politique, intellectuelle, culturelle, sexuelle de la France, c'est-à-dire de profiter, d'utiliser Guy Hockenghem comme un point pour décrire des espaces ou des champs, des contextes. Contextes sont si bien les mouvements marxistes des années 60, mai 68, la naissance d'un mouvement homosexuel révolutionnaire, le sida, l'université de Vincennes, le journal Libération, la littérature. Et à travers la place qu'occupe Guy Hockenghem dans ces moments-là, dans ces contextes-là, aussi d'essayer de dresser ce que j'appelle des problèmes politiques ou des problèmes théoriques. Donc voilà, c'est une biographie qui ambitionne, à travers un parcours, de dresser une histoire plus générale.
Donc on l'aura compris, je me suis servi de ton ouvrage, que j'ai lu avec attention et avec plaisir d'ailleurs, parce que c'est un livre qui est très bien écrit, je trouve, qui est paru aux éditions Fayard, on peut le préciser, pour filer notre entretien, c'est-à-dire on va suivre un petit peu le rythme du livre sur le plan chronologique, puisqu'il y a un plan chronologique dans le livre. D'ailleurs, que tu as intitulé, comme on le disait, « Les vies de Hockenghem ». Alors, déjà, pourquoi « les vies » au pluriel? Il a vécu plusieurs vies comme les chats, en fait.
En fait, ça renvoie à un débat un peu théorique au sein des sciences sociales et de la sociologie, qui est l'espace dans lequel je m'inscris. C'est un sujet un peu compliqué de s'attaquer à une personne. Qu'est-ce qu'est une personne? Qu'est-ce qu'est un individu? Et notamment, il y a une forme de constance ou d'unité de l'individu qui est derrière son nom, qui est quelqu'un s'appelle Guy Hockenghem ou Antoine Hidier ou je ne sais pas qui d'autre. Et en même temps, quand on entre dans les détails de la vie ou de l'existence, on va dire, d'une personne, on s'aperçoit que quelqu'un a plusieurs vies, c'est-à-dire il change, il se transforme, il se déplace aussi, il n'est plus tout à fait le même. Dans le cas d'Oken Game, d'ailleurs, c'est tout à fait saillant sur la question de l'homosexualité, mais aussi sur d'autres sujets. Guy Oken Game, qui pour nous apparaît être un militant homosexuel, n'a pas toujours été un militant homosexuel, et lui-même l'a décrit dans sa jeunesse. Il était un militant politique, par ailleurs homosexuel, et les deux étaient absolument inconcevables. Et il en a particulièrement souffert, il a subi des violences à ce sujet, etc., etc. Et à un moment, quelque chose se produit qui fait qu'il est possible qu'il devienne militant homosexuel. Et donc, ce Guy Oken Game, qui est à la fois le même, n'est pas tout à fait le même. Et l'idée du coup de ce titre Lévi, c'est de restituer aussi la pluralité un peu d'existence d'une personne. Et aussi à un moment, Guy Oken Game est investi dans ce qu'on appelle en sociologie des champs, c'est-à-dire des espaces précis de la vie sociale, le champ littéraire, le champ journalistique, et il a des existences différentes dans ces champs, voire peut défendre des positions contradictoires à différents moments. On y reviendra aussi sur l'homosexualité. Il a beaucoup changé, il s'est beaucoup déplacé, il n'a pas tenu les mêmes positions entre, je ne sais pas, 1972 ou 1977. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi de garder en tête quand on travaille sur quelqu'un qui a écrit, en particulier un intellectuel, un militant, c'est que il ne faut pas chercher à réduire sa pensée à une seule chose, mais plutôt chercher toute la multiplicité des formes comprises ses pensées et ses positions.
Alors justement, on va essayer de déterminer un petit peu le processus qui a fait passer d'Oken Game à un certain statut de militant politique, à un statut de militant politique et homosexuel. Alors on va déjà resituer un petit peu la période. Alors Oken Game est né après-guerre, en 1946, et lorsque éclatent donc les événements de mai 68, il est étudiant à l'époque.
Il est un jeune bourgeois. Étudiant au Quartier Latin qui participe à mai 68 et qui même avant mai 68 est fortement investi dans ce qu'on appelle le gauchisme, c'est-à-dire les mouvements formés à la gauche du Parti communiste qui milite activement. On a aussi oublié déjà toute la présence, toute la prégnance du marxisme qui a quasiment totalement disparu de notre horizon politique aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Ce sont des années de très forte, pour ces mouvements gauchistes, de très forte contestation du stalinisme, de très forte contestation du parti communiste, de très fort internationalisme, avec un attrait particulièrement marqué pour ce qui se passe en Chine, pour ce qui se passe à Cuba, pour ce qui se passe dans le tiers-monde, là où s'inventent des expériences du socialisme différentes de ce qui se passe en Union soviétique. Il faut rappeler aussi que la jeunesse est politisée pas seulement en France, mais dans le monde entier, aux États-Unis, en Allemagne, dans toute l'Europe. Et c'est à cet univers-là de bouillonnement et d'effervescence qu'appartient Oken Game.
Antoine Didier, tu évoques un petit peu les prémices de mai 68. Et Guy Oken Game était déjà un militant actif avant 68, puisque dans le livre tu parles d'actions auxquelles il a participé, notamment pour la défense de la pièce des paravents de Genet, et également il a participé aux manifestations du métro Charonne. Donc c'est déjà un jeune homme, il a 20 ans donc, dans les années 65-66, qui était politisé et qui est donc sous l'influence, je dirais, politique du gauchisme de l'époque, on peut le dire.
Oui, dans le sens où il appartient à un groupe qui s'appelle la Jeunesse communiste révolutionnaire, qui se réfère à Trotsky. La Jeunesse communiste révolutionnaire, qui est le groupe qui a donné ensuite la Ligue communiste, puis la Ligue communiste révolutionnaire, qui existait encore il y a quelques années, avant sa transformation en NPA, nouveau parti anticapitaliste. Qui est précisément un mouvement politique gauchiste qui s'oppose au Parti communiste et aux tendances dites staliniennes du Parti communiste. Il faut se rappeler que le Parti communiste français est alors particulièrement puissant, c'est le principal parti de gauche, et qu'en même temps il reste particulièrement, sur certains points, très dogmatique, très rigide, très lié aussi à ce qui se passe en Union soviétique à l'époque. Et Hockenheim, à l'époque, est aussi finalement un simple militant, même s'il est repéré, il commence à être connu, et un simple militant qui écrit des textes, qui participe à des manifestations, qui baigne dans l'univers intellectuel de l'époque. Tu as évoqué la pièce de Genet, Les Paravents, tu as évoqué la manifestation de Charonne. On est alors en pleine fin de la guerre d'Algérie. C'est aussi un moment très particulier de la vie politique française. Il y a aussi une violence politique particulièrement forte. Le métro Charonne, c'est quand même la mort de 9 personnes, je crois, j'ai un doute sur le nombre, piétinées lors d'une répression policière d'une manifestation contre la guerre d'Algérie. C'est la France de Gaulle, mais c'est aussi la lecture de Sartre, de Jean-Paul Sartre, pour Hockenheim, la lecture d'un certain nombre d'auteurs comme ça de la gauche. Lui-même a très bien lu Marx, a très bien lu Trotsky, participe aussi à des mouvements, des choses qu'on a tout à fait oubliées, mais il s'investit par exemple dans la lutte contre les. La réforme de l'assurance maladie. Donc voilà, c'est effectivement un militant gauchiste, comme il en existe beaucoup à l'époque. Sauf que lui est par ailleurs homosexuel.
On le retrouve donc au cœur des événements de mai-juin 68. Dans ton livre, tu dis qu'il a fait partie des étudiants qui ont été arrêtés à la Sorbonne après l'occupation donc, de la Sorbonne, la célèbre occupation de la Sorbonne, qui est considérée un peu comme le départ des événements de mai 68. La police a investi la Sorbonne et a arrêté ses étudiants contestataires. Ils étaient, alors j'ai noté le nombre, 574 qui ont été arrêtés, parmi lesquels se trouve Hockenheim.
Oui, apparemment. D'après des archives de police, il fait partie des personnes arrêtées. Et en même temps, quand on regarde les noms des personnes arrêtées, on en retrouve des connus. Alors, je ne sais pas tous sous les noms, mais il me semble qu'il y a Daniel Cohen-Bendit qui est arrêté en même temps, qu'il y a Alain Krivine qui est arrêté en même temps. Voilà. Hockenheim est au cœur des événements. Ce qui au fond, est logique. Si on suit sa trajectoire des années qui précèdent, il est investi dans le gauchisme, il fait partie de cette jeunesse contestataire politisée. Il y a un peu une énigme en fait de mai 68 qui est, je pense, le cœur même de l'événement. C'est que, à la fois, vu d'aujourd'hui, mai 68 s'inscrit dans... Il n'y a rien d'illogique à ce que mai 68 se produise, dans le sens où les années qui précèdent sont des années d'intense politisation de la jeunesse. Par exemple, la guerre du Vietnam aussi a servi de foyer de politisation massive dans le monde entier. Il y a une politisation de la jeunesse, il y a un certain nombre d'actions, un certain nombre de mouvements, il y a une effervescence politique même qu'on a pu en tête aujourd'hui, le quartier latin et le temple de ça. Et il se produit mai 68, qui est à la fois explicable et qui a une dimension qui reste, et encore aujourd'hui, pour une partie de la gauche, qui est quelque chose de mythologique, quelque chose d'inexpliqué, qu'on retrouve dans quantité de témoignages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de récits de mai 68 publiés, qui fait que, un mouvement de protestation prend une ampleur considérable et conduit au blocage gigantesque d'un pays. Paris est bloqué pendant 2 mois, il y a des pénuries d'essence, les postes ne circulent plus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de transport, la ville est totalement déserte. La même chose se produit dans des villes de province. Et puis il y a une grève massive, j'ai plus les chiffres exacts, mais il y a plusieurs millions de personnes en grève. Le pays semble comme arrêté. Et ça dure pendant plusieurs semaines. Et surtout, les gens insistent aussi sur une transformation. Ça m'a beaucoup frappé, une transformation des relations, des modes de vie. D'un seul coup, on se met à parler à des inconnus dans la rue. On se met à sympathiser avec des gens dont on ne connaissait pas l'existence. On se met à faire du stop et on discute. Et tout ça produit, pour ceux qui l'ont vécu, le sentiment que quelque chose est possible. C'est-à-dire ces personnes qui avaient préparé depuis des années la révolution, une transformation de la société, d'un seul coup entrevoient que cette transformation est possible et que la possibilité d'un autre monde n'est pas si éloignée que ça. Et ça s'est produit comme ça, de manière assez soudaine et assez inexpliquée, sur le fait que ça se produit maintenant et pas 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard. Et en même temps, mai 68 s'arrête, la grève s'arrête, les élections de juin 68 sont un mouvement de réaction très fort, avec un vote massif pour la droite gaulliste au pouvoir, et puis tout rentre dans l'ordre. Et moi, il m'a toujours semblé, à lire les textes d'Hockenheim et à lire les textes d'un certain nombre de personnes qui ont vécu ce moment-là, c'était ça en fait, c'était passé, c'était entrevoir c'est Deleuze, c'est Gilles Deleuze qui dit ça, entrevoir la possibilité de quelque chose, une brèche, et en même temps sentir que cette brèche s'est refermée, et à partir de là, tout faire pour essayer de rouvrir cette brèche et de retrouver cet état de, je sais pas si c'est un état de grâce, ou en tout cas cet état extraordinaire qui s'est passé, cette situation extraordinaire qui a été le printemps 68. Et ça, Okun Game et bien d'autres vont s'y atteler dans les années qui suivent, d'essayer de faire revivre, de retrouver ce moment-là.
Tu sais, on est comme on est jamais que ce qu'on est. Je sais que tu sais ce que c'est, tu sais bien que j'attendrai. Parfois j'ai vidé mon cœur sur des moments de douleur. Si j'ai serré ta main si fort pour te donner des remords, il faudra pourtant te revoir pour achever notre histoire. Il faudra bien se dire adieu, faire semblant d'être heureux. Et on est comme on est jamais que ce qu'on est. Je sais que tu sais ce que c'est, tu sais bien que j'attendrai. Tu connais trop bien mes folies, tu as trop partagé ma vie. Pour un jour ne plus y penser, il faudrait tout oublier. Oublier. Et si cet instant-là arrive, si je regarde l'autre rive, alors surtout ne parle pas, non, laisse-moi comme ça. Tu sais, on est comme on est jamais que ce qu'on est. Je sais que tu sais ce que c'est, tu sais bien que j'attendrai. J'ai encore ton dernier regard, les deux mots de ton départ. Je maudis même le côté court de souvenir et toujours, toujours. Il n'y aura plus d'avenir que des ruines et des soupirs. Mais peut-être bien que demain j'irai voir un peu plus loin, plus loin. Et on est comme on n'est jamais que ce qu'on est. Je sais que tu sais ce que c'est, tu sais bien que j'attendrai. Tu sais, on est comme on n'est jamais que ce qu'on est. Je sais que tu sais ce que c'est, tu sais bien que j'attendrai.
Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Je suis toujours avec Antoine Didier pour les Vies d'Okun Game aux éditions Fayard. Nous parlons donc de ce livre qui est l'occasion pour nous donc de parler de la personnalité de Guy Okun Game. Alors Guy Okun Game, dans les années de militance des années 60, la fin des années 60, est un militant politique mais n'est pas un militant homosexuel encore. Alors tu cites d'ailleurs une anecdote au cours d'une conférence du syndicat étudiant de l'UNEF. Quelqu'un lui pose la question directement sur son homosexualité et lui demande un peu sous forme un peu agressive apparemment s'il est homosexuel ou quelque chose comme ça. En tout cas, il évoque l'homosexualité d'Okun Game.
Il est même accusé publiquement. Effectivement, donc il est militant. Je l'ai pas dit. Il est militant à l'UNEF et lors d'une assemblée générale dont il a lui-même donné le récit dans son très beau livre autobiographique qui s'appelle L'Amphithéâtre des Morts, qui est un livre inachevé et publié de manière posthume dans les années 1990. Il raconte cette scène effectivement d'une assemblée générale où s'affrontent plusieurs tendances tendances adversaires concurrentes. L'orateur dit, pour délégitimer le groupe adverse, de toute façon, votre groupe admet des petits bourgeois dégénérés, la preuve, Okun Game est homosexuel. Et ça, devant des dizaines de personnes. Et la scène est loin d'être unique, elle s'est répétée à plusieurs reprises. Elle a lieu sans doute en 1967 ou en 1968, on ne connaît pas la date exacte, et elle est tout à fait représentative, en fait, non seulement de ce qu'a vécu Hockenheim, mais aussi la manière dont l'homosexualité est perçue au sein de cette gauche révolutionnaire. C'est-à-dire que l'homosexualité est non seulement tabou, on n'en parle pas, mais surtout est vécue comme une déviation, voire une déviation petite bourgeoise ou une déviation bourgeoise, avec l'idée qu'un vrai révolutionnaire, un vrai militant de gauche ne peut pas être homosexuel. Et la scène se poursuit parce qu'Hockenheim raconte avoir quitté la salle, s'être réfugié dans un café, et ses plus proches amis, pas seulement des militants, des gens qui sont amis avec lui, le rejoignent, et l'un d'eux lui dit « Mais finalement, est-ce que c'est vrai que tu es homosexuel ?» Et Hockenheim dit non. Et il ajoute dans son autobiographie « Réponse dont j'ai encore honte un demi-siècle plus tard. » Ce qui est encore une fois très très important, c'est-à-dire que même pour ses amis proches, même avec ses amis proches, il n'est pas possible de discuter d'homosexualité et aussi généralement de discuter de sexualité. Et là, on est aussi dans le cœur de ce que sont les années 60, y compris au sein de la gauche, des années de rigidité, de ce qui nous semble aujourd'hui être un conservatisme sociétal et moral, qui va d'ailleurs pas changer avec mai 68. Il faudra plusieurs années de lutte acharnée interne à la gauche pour que les choses changent. Et à ce moment-là, Hockenheim n'est clairement pas un militant homosexuel, et l'homosexualité n'a pas de place dans les luttes politiques. Et c'est ce qui va s'atteler avec d'autres à faire changer pour aboutir à la naissance du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR, et ce mouvement homosexuel politique révolutionnaire.
Et lui, il a rompu cette idée-là, je veux dire, puisqu'à un moment donné, il s'est affirmé comme militant homosexuel. Les années qui ont suivi 68, ça a été de grands mouvements sociétaux. On pense évidemment au MLF, évidemment, et au FAR que tu as déjà évoqué. Alors justement par rapport au FAR, on considère que le FAR c'est un peu la naissance du mouvement du militantisme homosexuel moderne, un peu en opposition à ce qui existait déjà en France, puisque le militantisme homosexuel, on va dire, n'est pas né en 1970, il est bien avant, il existe depuis, on peut dire sous certaines formes, depuis le 19e siècle. En quoi Hockenheim, lui, a participé à la création du FAR en fait?
Alors c'est vrai que avec Hockenheim et avec d'autres et avec le FAR naît un mouvement homosexuel qui se veut politique, qui se veut radical et qui se veut révolutionnaire, c'est-à-dire un mouvement homosexuel qui proclame que la sexualité est politique. Tu l'as rappelé, ce n'est pas le premier mouvement homosexuel français. Un mouvement homosexuel fondamental et majeur, c'est Arcadie, qui est fondé dans les années d'après-guerre, en 1954, qui est le seul mouvement homosexuel pendant très longtemps, et qui offre d'ailleurs un espace de résistance, on peut dire, de contre-culture, de culture homosexuelle fondamentale pour ses membres, en permettant déjà des publications à ces gens de se rencontrer, à l'affirmation d'une culture. Mais qui est un mouvement qui affirmait, qui revendiquait ne pas se mêler de politique et même se maintenir en dehors de la politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Hockenheim, comme les autres militants du FAR, eux viennent avant tout de la politique révolutionnaire. Donc pour eux, il s'agit bien d'intégrer la sexualité, l'homosexualité dans la politique, et réciproquement d'intégrer la politique dans la sexualité et l'homosexualité. Certains d'entre eux sont passés par Arcadie et ne s'y sont pas reconnus, voire en ont été exclus, parce que précisément, il y a deux conceptions totalement antagonistes de la sexualité et de l'homosexualité. Hockenheim lui-même ne fait pas partie des fondateurs du FAR. Le FAR est fondé début 1971, avant tout par des femmes, féministes, lesbiennes, hétérosexuelles pour certaines d'entre elles, qui sont en grande majorité toutes passées par le mouvement féministe. Le mouvement de libération des femmes, le MLF, a été fondé quelques mois plus tôt, à l'été 1970, rejointe rapidement par Hockenheim et par d'autres garçons comme Laurent Dispo, comme Françoise Daubonne. Ce mouvement-là apparaît aussi parce que ces femmes vivent une contradiction majeure, fondamentale en tout cas pour elles, c'est de se rendre compte que à la fois elles ont participé au mouvement féministe et qu'en même temps dans le mouvement féministe il reste très difficile de parler d'homosexualité.
Ce qui est amusant, c'est le vocabulaire de l'époque, parce que moi je trouve que le vocabulaire de la terminologie de l'époque est très amusant, puisqu'on parle de sexualité bourgeoise, on parle des hétéroflics. Il y a quelques documents sonores audiovisuels qui existent où on voit donc des militants, des militantes employer ces termes, quoi. C'est très amusant. C'est dommage que je crois qu'il n'y a pas de traces des interventions de Guy Hockenheim au phare.
Si, elles existent. Il y a une vidéo qui est faite par Carole Roussopoulos, donc une cinéaste féministe très importante de l'histoire et du féminisme et du cinéma expérimental, qui a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Le Phare. Et on voit Hockenheim parler à deux reprises, on le voit parler dans la vidéo. Et c'est très impressionnant de le voir parler parce qu'il a un physique qui est très beau, il a une chevelure frisée, très abondante, une forme de grâce aussi quand il parle. Il est très séduisant. Et puis, ses propos sont aussi très intéressants parce que même il décrit toutes les difficultés qu'il a rencontrées au sein du gauchisme. Aujourd'hui, dans le militantisme homosexuel, le phare paraît être le mouvement fondateur, mythique, voire mythologique, qui a eu un rôle fondamental d'impulsion, de quantité d'autres choses, et qui en même temps a duré quelques mois. Puisque dès la fin 1971, la majorité des femmes fondatrices ont quitté le phare, estimant que c'était les hommes qui avaient la parole, qu'on y discutait d'une sexualité masculine et qu'il n'était pas possible d'y parler de la sexualité féminine, qu'on y reproduisait un certain nombre de mécanismes de domination masculine, etc., etc. Donc effectivement, très tôt, il y a des tensions très fortes. Je parlais du numéro tout, qui paraît fin avril 1971, ce numéro-là est déjà critiqué par des féministes pour les conceptions de la sexualité qui s'y trouvent, et notamment l'idée que... la définition de la libération sexuelle, parce que le phare appartient à ce qu'on appelle la libération sexuelle, et finalement, il faut se demander qu'est-ce qu'être libéré sexuellement. Pour les féministes, être libéré sexuellement, c'est s'affranchir des mécanismes de domination, de la domination masculine présente dans la société. Pour un certain nombre d'homosexuels hommes, être libéré, c'est simplement avoir la possibilité d'avoir la vie sexuelle que l'on veut, et notamment de multiplier le plus grand nombre de partenaires, le plus grand nombre de pratiques, sans nécessairement critiquer les rôles sexuels, les termes qu'on utilise, ou la conception de la sexualité, sans forcément critiquer les rôles actifs-passifs, et l'idée qu'il y aurait un dominé, un dominant, etc., etc. Et ces discussions-là vont être très vives, et provoquer très tôt des différends, des dissensus, voire des scissions au sein du mouvement homosexuel et du mouvement féministe.
Alors moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans les revendications de l'époque, c'est nous revendiquons notre statut de fléau social jusqu'à la mort de l'impérialisme. Pourquoi le fléau social? Il faudrait rappeler qu'à l'époque, l'homosexualité était un fléau social.
Oui, parce que c'est aussi ce qu'il faut dire, à la fois c'est une période de censure de la presse et c'est une période de répression de l'homosexualité. Alors, l'homosexualité n'est pas illégale en soi, mais il y a deux articles du code pénal qui répriment certains comportements homosexuels, et puis au-delà de ça, les pratiques policières et judiciaires arrêtent les homosexuels, la police descend régulièrement dans des bars, dans des boîtes, enfin il y a un contrôle judiciaire très fort, et il y a des personnes condamnées en raison de leur pratique homosexuelle. Un de ces deux alinéas du code pénal avait été introduit à la suite d'une loi de 1960 qui considérait l'homosexualité comme un fléau social. C'est l'amendement dit Mirguet, parce qu'il a été introduit par Paul Mirguet, député gaulliste, me semble-t-il, en tout cas député de droite, qui dresse une liste de fléaux sociaux. Alors, de mémoire, il doit y avoir l'alcoolisme, sans doute la prostitution, l'homosexualité et quelques-uns d'autres encore. Donc il s'agit dans cette phrase du phare que tu cites, un peu de retourner le stigmate, comme par exemple les mouvements noirs se réclamaient d'être des nègres, de retournement de l'insulte, de faire de l'insulte quelque chose de positif. Les mouvements homosexuels, par exemple, s'affirment PD en disant nous sommes PD, nous en sommes fiers, ou nous sommes un fléau social. Il y a deux tendances au sein du mouvement homosexuel. L'idée, est-ce que la sexualité est dépendante du capitalisme? Donc est-ce que mettre fin au capitalisme, c'est mettre fin à la répression de l'homosexualité? Ou est-ce que, ce qui est plutôt la position de Hockenheim, même si lui-même évolue un peu, est-ce qu'il y a une disjonction des luttes? C'est-à-dire que d'un côté, il y a la lutte économique, la contestation du capitalisme, des rapports de production, des classes économiques, et de l'autre côté, il y a la lutte sexuelle, et qui sont pas forcément superposables. On peut mettre fin à l'un sans mettre fin à l'autre. Une société débarrassée du capitalisme peut être particulièrement homophobe, de même que un homosexuel peut être un patron exploiteur. Et Okun Game introduit cette idée-là qui je crois est très importante, que il y a une superposition des clivages et il n'y a pas une seule lutte totale et il suffirait de s'investir dans cette lutte pour transformer entièrement la civilisation ou la société. Si Okun Game critique cette idée-là, c'est aussi parce que l'idée qu'il faut mettre fin au capitalisme pour mettre fin à toutes les formes de répression ou toutes les formes de discrimination permet non seulement d'évacuer l'amélioration de la société à plus tard, mais permet aussi de faire une hiérarchie des luttes, une idée qu'Okun Game a beaucoup contestée. Et l'idée donc, c'est vraiment le capitalisme et l'économie qui est le plus important, et le reste vient après. Peut-être aussi juste une parenthèse, mais rappeler que, puisqu'on parlait de fléau social, cette répression de l'homosexualité ne disparaît qu'en deux temps, à la fin des années 70, enfin en 1980, et surtout en 1981-1982, à la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République.
Tu disais que Jean-Paul Sartre avait influencé, il avait lu tout Sartre, Dira, et avait énormément influencé la pensée de Guy Okun Game. Mais pas seulement. Guy Okun Game a eu d'autres mentors, si j'ose dire, et parmi eux, un dont il faut parler, même si ça sent un peu le soufre, toujours, quand on en parle, c'est René Scherrer.
René Scherrer est une personnalité majeure, non seulement de la vie d'Okun Game, mais aussi, je pense, de l'histoire intellectuelle du XXe siècle. René Scherrer est né dans les années 1920. Il est lui-même normalien, agrégé de philosophie, quelqu'un de très érudit. Et surtout, il est enseignant de philosophie au lycée Henri IV au début des années 60. Et il est le professeur de Guy Okun Game. Et des liens se nouent entre le professeur et l'élève, des liens sentimentaux, amoureux, sexuels. Et René Scherrer sera le premier amant de Guy Okun Game, sera aussi son mentor. Ils resteront proches jusqu'à la mort de Guy Okun Game. Ils écriront des livres ensemble, ils auront toute une vie commune. Surtout, Okun Game a écrit que René Scherrer lui avait tout appris, le sexe, la philosophie et la politique, qui est un peu le triptyque de la vie de Okun Game, la philosophie, la politique, la sexualité. Et pour lui, Scherrer a été quelqu'un de fondamental. Alors quand il se rencontre, Okun Game, on est en 62, Okun Game a 15 ans, bientôt 16 ans, René Scherrer est plus âgé, ce qui d'emblée aussi place leur relation sous un angle particulier, ce qui explique aussi partiellement qu'Okun Game s'intéressera aussi beaucoup aux questions d'enfance et aux questions d'une sexualité qui pourrait unir des adultes ou des enfants ou des adultes et des adolescents. C'est un sujet qui lui tiendra très à cœur. Je disais, il écrira avec René Scherrer des livres, notamment un livre sur l'enfance dans les années 1970, Co-Iré, en 1976, mais aussi un livre de philosophie en 1986, L'Amatomique. Voilà, René Scherrer sera aussi enseignant à l'université de Vincennes. C'est quelqu'un. C'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui est moins connu du grand public que d'autres très grands philosophes. Il est beaucoup moins connu que Michel Foucault, beaucoup moins connu que Gilles Deleuze, beaucoup moins connu que François Châtelet, parce qu'il a une œuvre peut-être moins volumineuse. Et en même temps, c'est un penseur fondamental, majeur, très très important de ce moment-là, de ces années-là. Il est un de ceux qui a permis de redécouvrir Charles Fourier, le penseur utopiste. Il écrit sur l'enfance, il écrit sur l'hospitalité, voilà, des livres, des textes questions. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue?
on that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz.
Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Donc nous sommes toujours avec Antoine Hidier. Les années 70, c'est aussi une époque, on va dire, ce que tu appelles, ou que Geokengame peut-être lui-même a défini ainsi. En tout cas, c'est un mot, un terme qu'on retrouve, une phrase qu'on retrouve dans ton livre. On parle du ressac de mai 68. Et Geokengame semble assez fataliste à ce sujet, le ressac des années 68.
C'est-à-dire que ce que constatent les militants de 68, c'est que très tôt, tout se referme. Il est apparu possible en 68 et dans les années qui suivent. Les années 68 sont des années d'effervescence politique, beaucoup de mouvements, beaucoup même d'expériences de vie, comme par exemple Geokengame lui-même l'a connu la vie communautaire dans ce qu'on appelle des communes, l'expérience de la drogue, de l'expérience de la contre-culture américaine. Mais très vite, ces gens, ces militants s'aperçoivent que loin de s'affaiblir, que la société se renforce et que la société qu'ils veulent détruire n'en est que plus forte, et constatent une forme comme ça d'impuissance. En fait, puis même on entre dans c'est le début de la crise économique, c'est la crise pétrolière, donc la vie même devient plus dure.
On voit dans ton livre en tout cas qu'à l'époque il est très entouré, il a une vie sociale qui est très dense, indépendamment aussi de son travail, puisque désormais il travaille, il est chargé de cours philosophie à l'université de Vincennes, qui est une émanation de mai 68. Il est à l'époque aussi devient journaliste à Libération, il faut le noter, ce qui est très important. D'ailleurs, dans ton livre, tu décris les rapports plus que tendus qu'il a avec le Serge Julie, fameux Serge Julie, directeur de publication de Libération. Tu le décris aussi dans un contexte social très important, où il est entouré de beaucoup de personnes importantes de l'époque, écrivains, philosophes, etc. Parmi ses amis, pour son entourage proche, on compte Copy, Michel Cressol, Gabriel Matzneff, René Scherrer, toujours lui, et aussi Lionel Soukaz, avec lequel il a ouvert le volet cinéma. Il se trouve que Lionel Soukaz, je l'ai interviewé il y a quelques années aussi, au sujet donc, du film « Razdep », qu'il a donc réalisé avec Geokengame. On est d'accord. Donc il est dans une époque là où soudain sa personne semble se briser en plusieurs personnalités. On sent aussi que c'est l'écrivain aussi qui commence à émerger à cette époque. Il y a une espèce d'effervescence.
Tu m'interrogeais au début sur ce titre Lévi au pluriel. C'est aussi ça, montrer comment il investit différents espaces littéraires, culturels. Mais je crois que tu as bien résumé effectivement ce qu'est sa vie à ce moment-là, c'est-à-dire des interventions littéraires, des interventions intellectuelles, le journalisme. En même temps, il y a aussi une préoccupation très triviale qui est de gagner sa vie à l'époque. Mais oui, pour lui, la poursuite... En fait, il cesse assez tôt d'être un militant politique et lui devient un intellectuel, un écrivain lié. Tu mentionnais Coppi, qui est effectivement quelqu'un un peu oublié aujourd'hui, mais qui est un dessinateur, auteur de pièces de théâtre, ouvertement homosexuel, argentin, qui vit à Paris, qui fait partie de ce qu'on a appelé les Argentins de Paris, Michel Cressol, qui est journaliste à Libération, Lionel Soukas, qui est un ami très proche de Guggenheim, et qui est une figure aussi du cinéma expérimental. Oui, ça appartient à un ensemble de dynamiques culturelles, on peut dire, qui s'inscrit dans cette durée de mai 68.
Alors, à la lecture de ton livre aussi, on découvre à cette époque un Guy Hockenheim pas toujours sympathique, en fait, notamment vis-à-vis même de ses amis qu'il décrit au vitriol à travers certains de ses écrits.
C'est vrai que Guy Hockenheim a quelque chose du pamphlétaire, en fait.
Il y a même un côté arrogant chez lui, non ? Il y a un peu l'arrogance du pamphlétaire, justement.
Oui, il y a deux choses. Il y a peut-être une arrogance qui est peut-être due aussi à sa position sociale, une arrogance de bourgeois, c'est possible. C'est l'hypothèse que je fais. Peut-être aussi une arrogance due aux brimades qu'il a subies en raison de son homosexualité dans les mouvements politiques. Et aussi ce côté pamphlétaire. Le pamphlétaire est un peu un type particulier de la vie culturelle. C'est pas le pamphlétaire n'est pas le philosophe. Le pamphlétaire est quelqu'un qui fait feu de tout bois, qui n'hésite pas à attaquer sur le physique, qui n'hésite pas à caricaturer, y compris ses propres amis, sans souci de se fâcher. Hockenheim a légitimé cette figure en s'intéressant notamment à Karl Kraus, ce pamphlétaire viennois du début du XXe siècle. Et lui, dans pas mal de textes, prend plaisir comme ça à l'outrance, ce qui parfois risque aussi de le desservir.
Et puis tu, évidemment, les rapports tendus avec Serge Julie. Apparemment, Guy Hockenheim supporte Serge Julie et vice-versa.
Libération est à ce moment-là un journal très très tendu. C'est un champ de bataille permanent parce que Libération, c'est le journal de la gauche où toutes les sensibilités de la gauche s'affrontent. Donc déjà, les rapports entre les différents clans et notamment le groupe homosexuel autour d'Hockenheim qui a fait rentrer plusieurs journalistes homosexuels qui prend plaisir à avoir une plume au vitriol, voire à parfois provoquer ou scandaliser sur des sujets précis. Donc tout ça produit déjà une dynamique interne tendue, complexe. Et puis en plus, Hockenheim n'a de cesse de contester les chefs du journal et le pouvoir qu'a Serge Julie, qui est un peu le patron très puissant ou tout puissant de Libération. Et surtout, à partir des années 80, au moment où débute cette révolution conservatrice des années 80 et où Julie contribue à Serge Julie à faire de Libération un journal beaucoup plus à droite, légitimiste, qui soutient la politique socialiste, le gouvernement socialiste, qui n'est plus un journal de la contestation et qui même sur des thèmes fondamentaux rompt avec ses idéaux fondateurs.
À l'époque, dans Libération, on a donc un Guy Hockenheim pamphlétaire, polémiste.
Reporter aussi.
Oui, reporter, c'est vrai.
J'ai tenu à faire paraître en même temps que le livre un recueil d'articles de Guy Hockenheim qui s'appelle Un journal de rêve aux éditions verticales, qui montre, qui donne à lire des reportages parfois très longs qu'il fait à l'époque, qui ont même disparu parce que les reportages dans les journaux disparaissent beaucoup plus facilement. On conserve les livres, mais pas les journaux. On indexe les livres, mais pas les journaux dans les bibliothèques. Et il publie des reportages sur la sexualité, mais aussi sur des sujets, par exemple la construction des halles à Paris et du Forum des Halles, sur Wim Wenders aux États-Unis, sur la vie gay aux États-Unis, comme ça, toutes sortes de sujets, avec des longueurs aussi qu'on n'imaginerait plus dans la presse aujourd'hui, un style qu'on ne retrouverait pas dans Libération aujourd'hui. Et c'est une facette importante de sa production écrite.
Alors, d'ailleurs, lui-même le dit, malgré mes rapports tendus parfois au sein de la rédaction de Libération, j'ai pu écrire ce que je voulais dans Libération, ce qu'il n'aurait pas pu faire dans un autre journal. Ce qui est certainement vrai.
Oui, il avait déjà une liberté à Libération, et puis surtout Libération parle de thèmes dont la presse ne parle pas. Libération est à l'époque un journal vraiment à part, à la fois par son style, sa mise en page, et dans les thèmes qu'il aborde. Libération se veut proche du peuple, proche des gens. Libération, à l'époque, Libération a des, je sais pas, a des annonces, une rubrique tolard avec des annonces pour les détenus, par exemple, où Libération fait des reportages sur la manière dont les gens vivent avec un souci de contestation, ou parle de sujets dont le reste de la presse, notamment par exemple de l'homosexualité, en parle beaucoup, là où la presse en parle très peu. Donc Libération a été à l'époque un journal d'avant-garde et véritablement différent dans le paysage de la presse.
Va émerger Guy Hockenheim, écrivain, essayiste. Donc il commence à écrire des essais. On peut parler de l'après mais des faunes. On peut parler aussi de lettre ouverte à ceux, alors il est long le titre, hein, lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, qui est justement une, comment dire, une charge en fait contre... On peut dire que c'est une charge, en fait.
Oui, c'est un pamphlet qui date de 1986, donc là, on a sauté un peu dans le temps.
Justement, qui rejoint ce qu'on disait au début, enfin, pas au début, mais parce qu'on parlait des débuts des années 70, du ressac de mai 68.
Oui, parce que les années 80 sont un moment de retour un peu conservateur, où un ensemble d'individus et de personnalités qui avaient été contestataires, un peu, entre guillemets, se rangent, à la fois soutiennent la politique socialiste, renoncent à un certain nombre de thèmes contestataires qu'ils avaient auparavant défendus, et puis même, en fait, proclament que c'est la fin de la contestation, c'est la fin des mouvements sociaux, c'est la fin de la gauche radicale. Et Hockenheim a très bien connu certains d'entre eux, Serge Julie, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, et donc écrit ce pamphlet contre eux en nommément, enfin en les dépeignant de manière très acide, et en aussi donnant à lire un peu les ruptures, la manière dont ils ont totalement tourné Kazakh ou viré de bord en quelques années. On parlait de Sartre tout à l'heure, par exemple, dans les années 70, Sartre est la figure majeure intellectuelle pour ces personnes-là, et dans les années 80, elle vilipende Sartre comme l'homme qui s'est toujours trompé, ou qui était un mauvais philosophe. Et le livre est important parce que en fait, c'est un des premiers livres qui pointe ce glissement vers la droite d'un certain nombre de personnes qui accompagnent un glissement général vers la droite. L'imposition aussi, c'est les années 80, c'est l'imposition du néolibéralisme, l'inéluctabilité proclamée du marché, l'apparition de thèmes comme ça, la fin, le début de l'effondrement, non seulement du marxisme, mais aussi des discours contestataires à gauche, la fin de la lutte des classes, voilà. Et Hockenheim se dresse très fortement contre cette transformation du discours politique, du discours social, du discours journalistique. Alors lui, en proclamant cette fois-ci une fidélité à mai 68 et une fidélité à la contestation. Mais à l'époque, il est bien seul et très minoritaire dans le paysage politique.
Ce sera bien, 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 bien. Ce sera bien, bien, bien. Non, je ne serai pas sage, mais tu viendras. Nous serons de petits pages du Moyen-Âge, tu verras. Ce sera bien, 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 bien. Ce sera bien, bien, bien. C'est le merveilleux naufrage qui joint nos doigts. Pour notre premier voyage, c'est bientôt l'âge, tu verras. Ce sera bien, 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 bien. Ce sera bien, bien, bien. Partirons sans bagage, prends-tu mon bras. Nous vaincrons tout par la rage de notre joie, tu verras. Ce sera bien, 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 bien. Ce sera bien, bien, bien. Non, je ne serai pas sage, mais tu viendras. seront de petits pages du Moyen-Âge, tu verras. Ce sera bien, 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 ce sera bien, bien.
Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Donc toujours avec Antoine Didier pour son livre Les Vies d'Oken Game. On arrive donc à la période de la vie d'Oken Game, la dernière période je dirais, où il est reconnu comme écrivain en tout cas. On a parlé de ses essais, donc l'après-mai des faunes, encore référence à mai 68, on vient de parler de la lettre ouverte, mais il écrit aussi des romans désormais. Alors est-ce que par exemple L'amour en relief peut être classé dans la catégorie roman de Guy Oken Game?
Oui, c'est vrai que c'est une dimension d'ailleurs qu'on on a... Globalement, Oken Game a longtemps été oublié de la vie culturelle française. Et on a oublié même si, davantage certains aspects de sa personnalité que d'autres. On se souvient que c'est un militant homosexuel, on se souvient que c'était un militant politique. On se souvient moins qu'il a été romancier, et romancier à succès. C'est-à-dire que dans les années 80, il écrit, il publie des romans, et des romans très populaires qui ont un grand succès public. Il y a de nombreuses ventes, il y a un grand succès critique, et il est même lui-même sélectionné pour le prix Goncourt deux fois, ce qui est un peu une forme de consécration dans la vie littéraire. Le premier de ses romans, c'est L'amour en relief, dont tu parlais, qui est publié tout début 1982, qui est l'histoire d'un aveugle, sur le rapport au monde propre qu'à un aveugle, comment bah, il interagit différemment que les voyants, qui en même temps aussi est une réflexion sur le statut du minoritaire. Qu'est-ce qu'un aveugle dans une société dominante de voyants, où il y a aussi en creux, c'est les années 68 que décrit Oken Game en caricaturant ses amis et ses proches.
À cette époque-là, dans les années 80, donc c'est un Guy Oken Game écrivain que nous avons, quelqu'un qui reçut par exemple par Bernard Pivot plusieurs fois sur Apostrophe, qui est quand même la grande émission littéraire, grand public de l'époque. Et puis nous avons aussi un Guy Oken Game qui se détache peut-être un peu du militantisme homosexuel tel qu'il se pratique dans les années 80, me semble-t-il.
Tu as tout à fait raison, lui-même dit que le militantisme homosexuel ne l'intéresse plus. En même temps, c'est plus principalement ses thèmes d'intervention, comme s'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. En même temps, il tient une chronique dans Guépier, Hebdo, le principal hebdomadaire homosexuel des années 80. Il écrit dans Masque, la revue homosexuelle. Il a une émission de radio sur Fréquence Gay, la radio homosexuelle des années 80. Donc il y a toujours cette ambivalence qui se manifeste chez lui. Mais effectivement, il n'est plus directement militant homosexuel. Il suit de manière très distante les luttes des années 80. Voilà. Il est plutôt écrivain intellectuel que militant homosexuel.
1985, c'est l'année où Guy Oken Game est diagnostiqué du sida. C'était l'époque avant l'arrivée des traitements. Donc à l'époque, diagnostiquer du sida, c'est une condamnation à mort. Alors je suppose que ces derniers romans en sont... Le sida a une place quand même dans l'écriture de Ken Game, de façon directe ou indirecte, dans ses derniers romans comme Ève, Les Voyages et Aventures Extraordinaires de Fran Angelo, parce qu'il les écrit alors qu'il est très malade. Parfois, il les écrit, il est hospitalisé.
Le livre d'Oken Game, Ève, est aussi une manière d'essayer de parler du sida d'une autre manière, en fait, en insistant sur la souffrance du malade, en insistant sur... donc voilà, c'est un des premiers romans qui parle du sida dans les années 80. Et qui est intimement lié à ce que traverse Oken Game à ce moment-là. Oui.
Alors, Guy Oken Game, l'aveu de ses amis, évidemment, a été très marqué par le sida à la fin, dans les derniers mois de sa vie, puisque à l'époque, les personnes portaient les stigmates de la maladie et n'étaient plus que l'ombre lui-même. Guy Oken Game est mort en quelle année ?
En 1988. Il meurt le 28 août 1988. Voilà, après, il était sombré dans le coma, d'après ses proches. À 41 ans, même avant ses 42 ans. Après, voilà, des mois de très forte souffrance. Jusqu'au bout, il a écrit. Il termine à l'hôpital. Il termine peu avant d'être hospitalisé son dernier livre, enfin son avant-dernier livre, du coup, les Aventures extraordinaires de Frère Angelo, qui paraît le 30 août, deux jours après sa mort. Et il entame l'écriture d'un nouveau livre autobiographique, L'Amphithéâtre des Morts, inachevé, donc qui paraîtra de manière posthume en 1994, qui est aussi très beau parce que se lit dans le livre. En fait, le héros du livre est quelqu'un qui a survécu au sida, et c'est un peu l'ultime combat de Ken Game par l'écriture et par la littérature de s'imaginer survivant à la maladie et d'être plus fort que la maladie.
Est-ce que la personnalité d'Oken Game a eu une influence majeure, à ton avis, sur le militantisme homosexuel tel qu'il s'est déroulé, ou est-ce qu'il a juste été un élément de ce militantisme, ou est-ce qu'il a eu une place majeure, prédominante, à ton avis ?
Il a eu une place majeure, mais par son action, dans le sens où pour beaucoup, le phare et le mouvement des années 70 est le moment fondateur du militantisme homosexuel, tel qu'il existe aujourd'hui. Donc rien que pour ça, la réponse est positive. En même temps, son nom a longtemps disparu, longtemps été éclipsé, parce que aussi ces textes parlent d'un moment précis qui n'est pas forcément le moment que nous vivons aujourd'hui. Les problèmes ne sont plus tout à fait les mêmes, les problèmes politiques, la situation sociale de l'homosexualité n'est pas tout à fait la même non plus. Et en même temps, il y a un mouvement de redécouverte de son travail, notamment dans les mouvements plus radicaux. Et mon livre se veut aussi justement une contribution à cet intérêt-là, même une invitation à redécouvrir Oken Game, en disant que sans doute il y a des choses à puiser dans sa vie, dans sa trajectoire, dans ses écrits pour faire vivre la politique aujourd'hui, la politique sexuelle, la politique homosexuelle et plus généralement la politique de gauche aussi. Donc peut-être que sa place dans l'imaginaire collectif de la politique homosexuelle va grandir ou va progresser dans les années futures. En tout cas, c'est une invitation que je fais.
Et comment es-tu venu à Guy Oken Game ? Par son côté écrivain, par le philosophe, le théoricien ?
Par le fait que les militants des années 70 que j'avais interviewés m'en parlaient beaucoup. Comme justement une figure un peu tutélaire. Et que j'ai eu envie de voir ce dont il s'agissait, aussi la conscience qu'il avait été quelqu'un d'important et qu'il avait été oublié, qu'il avait même été oublié, qu'il avait disparu, ses livres n'étaient plus disponibles, et aussi, ce qui peut paraître paradoxal, le fait qu'il y avait s'amorcer un mouvement de redécouverte de son œuvre ou de sa trajectoire, notamment aux États-Unis dans les années 90, et qu'il me semblait que cette redécouverte était très partielle et qu'il fallait donner un portrait le plus complet possible pour le redécouvrir à sa juste valeur.
Et est-ce qu'on trouve encore des éditions des livres de Oken Game ?
Un certain nombre sont encore disponibles et réédités. Le désir homosexuel, les articles de presse que j'ai réédités, mais aussi l'anatomique, la beauté du métis, dont on a parlé, qui est un pamphlet de 1979, la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, et puis d'autres sont trouvables très facilement d'occasion. Les romans, comme ils ont été tirés à très grand nombre d'exemplaires, sont très facilement trouvables.
Donc à découvrir ou à redécouvrir, dit Guy Oken Game. En attendant, on peut toujours découvrir la personnalité de Guy Oken Game à travers donc ta biographie, qui, je le rappelle, s'appelle « Lévi d'Oken Game » aux éditions Fayard, par Antoine Didier. Et j'en profite pour te remercier encore une fois d'avoir accepté ce long entretien.
Merci à toi pour cette lecture attentive et pour ces questions.
Nous étions donc en compagnie de Antoine Hédier, qui nous a parlé de son dernier livre, Les Vies de Guy Oken Game. Alors, je vous rappelle que la version que nous avons entendue ce soir est la version courte de l'entretien. Pour écouter la version dans son intégralité, il faudra se rendre sur le site de l'émission plurielgay.fr. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir nos sœurs de la perpétuelle indulgence du couvent des Traboules. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une excellente fin de semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine à 20h sur les ondes de Radio Pluriel pour une nouvelle émission de Pluriel Gay.
La grappe sous la feuille de vigne.
La belle grappe buteuse, gorgée de soleil généreuse.
Ça fait bon Dieu, comme nous, les aimons,
les grappes de notre patron.
qui roule dans nos mains expertes. Dieu que nous les aimons, les grappes de notre patron cachées dessous les feuilles vertes. C'est qu'on doit léger nous à battre pour manger, après manger lorsque le patron nous fait signe. Quand on a bien déjeuné, quel plaisir d'aller dénicher la grappe sous la feuille de vie. Des vendangeurs, chantons tous en cœur. Et des vendangeurs, chantons tous en cœur. Chantons tous en cœur notre bonheur. D'être gay et vendangeur, chantons en cœur notre bonheur. Et des vendangeurs, chantons tous en cœur. Et des vendangeurs, chantons tous en cœur. Chantons tous en cœur notre bonheur. D'être gay et vendangeur, chantons en cœur notre bonheur. La grappe sous la feuille de vigne. Sous la feuille de vigne. Sous la feuille de vigne.